Bonjour à toutes et à tous qui venez d'allumer votre radio, que vous soyez confortablement assis chez vous ou en voiture. J'espère que, comme d'habitude, vous apprécierez cette émission sur les traces de mythes grecs. Dans cette émission mensuelle, je vous présenterai encore une fois certains aspects de la mythologie grecque. Certains d'entre vous reconnaîtront des mythes, des héros ou des dieux, et d'autres pourront ainsi les découvrir. Comme d'habitude, je serai votre présentateur, Marvin, 19 ans, toujours passionné par la période de l'Antiquité grecque. J'espère encore une nouvelle fois vous transmettre cette passion et vous faire partager l'histoire d'une petite trentaine de minutes, les mythes et les histoires de ma civilisation favorite. Pour l'émission d'aujourd'hui, nous allons continuer notre exploration des mythes qui entourent la célèbre cité de Thèbes, et plus particulièrement, nous nous intéresserons ici au devenir des enfants d'Œdipe et de Jocaste, ces êtres issus d'une relation placée sous le signe de l'inceste et de la malédiction des labes d'acide. N'hésitez pas à vous rendre sur le site de Radio Ranciel pour réécouter la dernière émission en podcast. En effet, cette présente émission est une suite en quelque sorte, même s'il n'est pas nécessaire d'avoir assisté à la précédente. Là, maintenant, je vais vous inviter à replonger dans la cité de Thèbes, en Béotie, quelques générations après que Cadmos l'ait fondée. Antigone a accompagné son père Œdipe durant les derniers moments de sa vie, en exil loin de la cité qu'il avait vue naître. Ensuite, nous nous intéresserons aux mésaventures de ses descendants, victimes de la malédiction portée sur Œdipe, et en particulier celle de ses deux fils, Polynice et Théocle. Et plus particulièrement, j'aimerais que nous penchions sur la destinée de la célèbre et farouche Antigone. Brièvement, pour que nous remettions les idées en place quant à la genèse des mésaventures qui vont ponctuer la vie d'Antigone et de ses frères, nous allons faire un petit résumé des aventures d'Œdipe. Après que ce dernier ait découvert avoir tué son père biologique et épousé sa propre mère, celle qui l'a enfantée, il était tout simplement horrifié par cette terrible révélation. Après 20 années de règne prospère, la cité de Thèbes est sans dessus-dessous, la vérité éclate. Jocaste, sa mère et son épouse à la fois, attente à sa vie. Et lui se saisit des broches de la reine et se crèvera les yeux pour ne plus voir ce monde qu'il a tant malmené et induit en erreur. Œdipe décide de quitter le trône, il s'exile. Tout le monde se détourne de lui, horrifié par ce qu'il a commis. Il est considéré comme un paria, et tous, sauf Antigone, vont continuer à le soutenir malgré la vérité qui éclate. C'est ainsi qu'Antigone va apparaître comme une fille loyale jusqu'au bout, qui ne va pas hésiter à braver l'opinion par respect pour son père et pour des valeurs qu'elle estime justes. C'est ainsi qu'elle lui servira de guide, maintenant qu'il est aveugle, et ce jusqu'à sa mort à Colone, près d'Athènes. Pendant ce temps, à Thèbes, une guerre va éclater et faire rage. On la retient comme la guerre des sept chefs. En effet, à Thèbes, Éthéocle et Polynice, les fils d'Œdipe, se disputent le trône laissé vacant par leur père déchu. En quittant Thèbes, Œdipe avait maudit ses deux fils. Il avait professé qu'ils causeraient chacun la mort de l'autre s'ils ne savaient pas renouer avec les valeurs de la famille. Il dira peut-être cela par rapport au fait que, après 20 ans, dès que la nouvelle de son crime se répand, il est considéré par tous comme un paria, un malfaiteur, une source de malheur, même de la part de ses propres enfants, excepté Antigone. C'est ainsi une manière de les punir, de leur montrer la nécessité de renouer avec des valeurs familiales, des valeurs pures et justes. Après ces 20 années de règne dans la paix et la prospérité, Thèbes est véritablement sans dessus-dessous, et à ce moment-là, les deux frères, donc les deux héritiers au trône, vont en quelque sorte se disputer le pouvoir. Il me semble que c'est sur les conseils de Créon, leur oncle, que les deux jeunes frères vont décider de gouverner une année chacun en alternance, afin qu'il n'y ait pas de troubles. Et celui qui gouvernait devait s'absenter de Thèbes pendant une année entière. C'était là un compromis, en apparence formidable, mais qui va s'avérer complètement boiteux, et qui va conduire à la guerre des sept chefs. En effet, après la première année de règne, Éthéocle va refuser de céder tout simplement sa place, et un conflit sanglant va éclater entre les deux frères. Polynice va aller chercher refuge auprès d'Adrasté, le roi d'Argos, une autre cité assez influente dans la Grèce antique, dont il va épouser la fille Argie comme afin de sceller une forme d'alliance. Avec elle, ils auront d'ailleurs trois enfants. Mais Polynice n'avait pas abandonné l'idée de reconquérir le trône de Thèbes. C'était une obsession pour lui. Il voulait obtenir le consentement de son père, Œdipe, en se rendant auprès de lui à Colone avant qu'il ne meure. Mais ce consentement n'était pas qu'un moyen de renouer le contact ou par respect. Il n'était que pur intérêt, car selon un nouvel oracle, le parti qu'Œdipe soutiendrait aurait la victoire entre les deux frères. En sage, Œdipe va se comporter avec assez de sagesse. Il va refuser de prendre parti pour aucun des deux frères. Peut-être est-ce en vertu du fait qu'il a suffisamment souffert des prédictions des oracles. Il va même aller jusqu'à maudire ses deux fils, comme je le disais, pour leur comportement prédisant qu'ils s'entretueraient. Polynice n'a que faire, pourtant, de ne pas avoir le soutien de son père. Au fond, c'était une formalité. Il prépare une expédition militaire de son côté, contre son frère et la cité qu'il a vue naître. Les 7 chefs argiens, donc de la cité d'Argos, Tidée, Canapée, Parthenopéos, Hippomédon, Adrasté et Amphiaraos, des noms assez compliqués, je dois vous l'avouer, mais bon, il faut bien passer par là, eh bien, ces chefs, sous la conduite de Polynice, vont se présenter tout armés devant les 7 portes de Thèbes. Noterons au passage l'importance de la numérologie dans les mythes et les légendes, le chiffre 7, synonyme d'équilibre et d'harmonie. C'est l'idée d'un tout, d'une chose totalisante. Quoi qu'il en soit, si nous retournons à Thèbes, la bataille fait rage. On peut se rapprocher d'un combat en particulier qui semble animé de plus de violence et de plus de rancœur qu'aucun autre. Nous retrouvons face aux deux frères qui se retrouvent pour un duel singulier, un ultime duel à mort pour le pouvoir. La haine anime leurs gestes. Ils sont désormais des ennemis. Plus rien, si ce n'est peut-être leur sang, ne les lie. Au cours du combat qui les oppose, les deux finissent par s'entretuer, chacun tuant son propre frère. Créon est accablé face à cette situation et il va décider de reprendre les choses en main pour restaurer une bonne fois pour toutes l'ordre dans la cité de Thèbes. Il est contraint malgré lui d'imposer une loi pour l'exemple et pour marquer les esprits. Il réserve à Éthéocle les honneurs funèbres, tandis que le corps de Polynice, considéré comme traître pour avoir porté les armes contre sa cité, eh bien ce corps va être abandonné sans sépulture. Son corps, meurtri, va être à même le sol, à la portée et à la merci des rats, des bêtes sauvages, qui n'hésiteront pas à se repaître de sa charogne. Et surtout, quiconque osera ne serait-ce que porter une poignée de terre sur sa dépouille sera accusé de traîtrise à son tour. Or, notons que dans la conception antique, ne pas recevoir de sépulture décente, ni les honneurs, est peut-être la pire des choses qui soient. C'est être condamné à une errance éternelle, sans pouvoir jamais trouver le repos. Nous reviendrons sur l'acte de révolte de la jeune et farouche Antigone juste après une petite pause musicale, juste le temps de souffler un peu. Ce sera l'occasion de voir comment cette jeune fille, qui après avoir perdu père et mère, et même frère, ses deux frères, comment elle va braver l'interdit politique au nom d'un devoir moral envers son frère, qui n'a plus qu'elle pour lui assurer les honneurs funèbres. Nous intéresserons aussi au dilemme intérieur de Créon, partagé entre devoir politique et devoir familial. Un sujet difficile mais intéressant à comprendre. Je dis à tout de suite.
Κουράγιο περιστέρες κι ανεμόνες μου. Οι ώρες κι οι συντροφιαστές κι οι μόνες μου. Όπου μαυρίλα κλώθεται και γνέθεται, η ύλη μικρή γεννείται κι όλο αλέθεται. Σε ευλογημένη μέρα βγάνει το κακό, σε δημόσια πλατιά το στενό σοκακό, κι είναι στη σκοτεινιά και στην ερήμωση όπου ριζώνει και βοδιάζει θύμηση. Πάρτε μεράκι φλόγα λόγο μάλαμα, πάρτε μικρό λαγούτο, πάρτε μπάγλαμα, να αρχίσει το τραγούδι να ανέβει ο καημός, να πάρει και να δώσει ο νους κι ο λογισμός. Ρίζα πικρή μου ρίζα και χρήση πηγή, δώσε την περηφάνεια, πάρε την οργή, και με το χ και με το νο και με το ντε όλα του κόσμου τα δικά ξεχάνονται, και με το χ και με το νο και με το ντε όλα του κόσμου τα δικά ξεχάνονται. Κουράγιο περιστέρες κι αν είναι μόνες μου. Οι ώρες κι οι συντροφιαστές κι οι μόνες μου.
Nous voici donc de retour pour parler ensemble de la légende qui est devenue Antigone, la jeune fille dévouée qui sacrifie sa vie pour défendre les lois et les valeurs en lesquelles elle croit. Par moments, je m'inspirais de quelques passages tirés de la pièce de théâtre d'Antigone, donc écrite par Jean Anouilh durant la Seconde Guerre mondiale. Je trouve qu'il a su trouver les mots et la manière de rendre compte de façon assez limpide de la tragédie de Sophocle. Pour nous resituer dans les événements, du coup, Antigone était partie accompagner son père Oedipe dans son exil forcé. Ce dernier meurt à Colone où se rend alors Ismène pour soutenir sa petite sœur Antigone. C'est la dernière de la fratrie. Et bien qu'issue d'une union incestueuse et placée sous le signe de l'opprobre, nous devons souligner qu'Antigone était une très belle jeune fille. Mais surtout, elle était aussi belle de l'intérieur que de l'extérieur. Ainsi, les quelques vers de Jean-François Ducis, un poète versaillais du XVIIe siècle et cheval XVIIe, XVIIIe même, souligne la vertu qu'elle incarne. Oui, tu seras toujours chez la race nouvelle de l'amour filial le plus parfait modèle. Tant qu'il existera des pères malheureux, ton nom consolateur sera sacré pour eux. Il peindra la vertu, la pitié vive et tendre. Jamais sans tressaillir, ils ne pourront l'entendre. Ainsi, Antigone apparaît vraiment comme un exemple de vertu. Et après que Créon soit arrivé au pouvoir, et qu'il entend restaurer la paix à Thèbes, il va proposer un mariage légitime qui doit unir Aimon à cette jeune Antigone. Ce sera une manière d'unir les deux lignées et de légitimer son influence, pour garantir l'ordre et la stabilité. Créon, étant le frère de Jocaste, la mère et la grand-mère d'Antigone, lui aussi a beaucoup perdu, et il est désireux d'une paix nouvelle plus que quiconque. Cependant, tout ne se passera pas comme prévu, comme de bien entendu dans les mythes. Antigone apprend le décret, et ce décret faisant acte de loi de Créon qui interdit à quiconque de rendre les honneurs à Polynice, eh bien il va lui sembler complètement illégitime et injuste. Antigone est alors confrontée à un dilemme, autrement plus difficile, qu'il met en relation son honneur, son amour pour son frère, et son respect des lois en vigueur dans la cité, au nom de son statut de princesse. Elle sait que si elle décide d'enterrer son frère, malgré l'interdiction de son oncle Créon, elle sera passible de la peine capitale et risquera de restaurer le chaos dans la cité. Cependant, nous ne pouvons pas blâmer Créon. Il ne faut pas se méprendre sur les agissements de cet homme qui fait du mieux qu'il peut pour garantir l'ordre. Jean Anouilh le présente d'une façon qui est vraiment marquante, presque empathique. Je vous livre un petit extrait d'ailleurs. Cet homme robuste, aux cheveux blancs qui médite là près de son page, c'est Créon. C'est le roi. Il a des rides, il est fatigué. Il joue au jeu difficile de conduire les hommes. Avant, du temps d'Oedipe, quand il n'était que le premier personnage de la cour, il aimait la musique, les belles reliures, les longues flâneries chez les petits antiquaires de Thèbes. Mais Oedipe et ses fils sont morts. Il a laissé ses livres, ses objets, il a retroussé ses manches et il a pris leur place. Quelquefois, le soir, il est fatigué. Il se demande s'il n'est pas vain de conduire les hommes, si cela n'est pas un office sordide qu'on doit laisser à d'autres, plus frustres. Et puis au matin, des problèmes précis se posent, qu'il faut résoudre. Et il se lève, tranquille, comme un ouvrier au seuil de sa journée. Gouverner est l'une des choses les plus difficiles qui soient. On comprend avec ce petit passage. Il faut savoir prendre des décisions qui ne sont pas toujours faciles. D'ailleurs, ce qui est facile et ce qui est bien sont rarement la même chose. Créon sera peut-être le plus malheureux dans l'affaire, comme nous allons le voir. C'est lui qui doit prendre les décisions qui incombent, une décision difficile, même si elles vont à l'encontre de son attachement pour sa famille et de sa volonté que plus de violence ne soit perpétrée dans Thèbes, que le sang ne coule plus. Antigone, quant à elle, va se décider à passer à l'acte. Elle se rend sur les lieux où gît le cadavre de son frère, cadavre dont l'odeur doit être aussi horrible que la charogne de Baudelaire. Cela fait plusieurs jours qu'il cuit sous le soleil. Pour elle, en cet instant, il n'y a plus de doute pourtant. Elle doit obéir à la loi divine, une loi qui surpasse de loin toutes les lois naturelles. enterrer ses morts, c'est quelque chose de naturel. C'est quelque chose qui vient de si loin qu'on ne sait pas vraiment pourquoi on le fait, mais on sait qu'il faut le faire, par respect pour le proche défunt, mais aussi par respect pour les dieux. La loi de Créon est injuste, car elle ne se fonde pas sur ce qui est légitime. De cela, Antigone en est persuadée. Elle retrousse donc les manches de sa robe, et elle creuse la terre sèche de ses ongles pour jeter quelques malheureuses poignées de terre sur son frère. Cependant, des gardes se saisissent d'elle, aussitôt qu'elle se jette sur le corps de son frère, alors qu'elle se débat, comme une folle, pour tenter de jeter encore une énième poignée de terre. Parce que c'est son devoir. Antigone doit le faire. C'est un petit peu le côté tragique du mythe. Antigone est d'ailleurs littéralement et étymologiquement celle qui n'est pas droite, qui ne rentre pas dans le moule, celle qui pense par elle-même. Sans doute l'une des plus belles qualités. L'un des gages d'une certaine forme de maturité malgré son jeune âge. Elle sait qu'elle est la dernière qui puisse permettre à son frère de ne pas errer pour le reste des âges sans sépulture. Elle incarne la résistance du devoir moral face au pouvoir qui se doit d'être arbitraire de l'État et qui va trouver écho en Créon. Et pourtant, bien que ce geste fasse objet d'un acte de désobéissance civile, d'une certaine façon, un acte de rébellion pacifique, pour montrer l'incohérence de certaines lois, c'est une décision qui est prise pour elle. Au fond, Antigone ne fait qu'obéir à ce que lui dicte son instinct, celui que les dieux ont mis en son sein. Elle le doit. C'est là la tragédie grecque. C'est une machine qui, dès qu'elle est enclenchée, broie tout sur son passage et exige que tout soit fait comme les parques l'ont voulu, jusqu'à ce que le fatum, la fatalité, cette destinée cruelle, brise les héros et les héroïnes des légendes qui nous sont parvenues. Créon est maintenant confronté à un choix, lui aussi, qui met en péril l'équilibre durement retrouvé de la cité, dont il a endossé la charge parce qu'il le fallait. Ou sauver sa nièce, qu'il apprécie tout de même, qui doit épouser son propre fils. Mais dans ce cas, il paraîtrait flexible et le chaos menacerait de nouveau Thèbes. Ou bien la condamner, sans lui offrir de passe-droit parce qu'elle est de sa famille et que son acte était légitime. Mais alors, avoir sur sa conscience cette énième mort, celle de sa propre nièce. La morale de Créon va apparaître rigide. Il conçoit la morale comme un rempart à la violence et au chaos humain. Il ne s'inspire pas de ce que les auteurs appelleront une éthique, qui soit plus humaine, une éthique de responsabilité, qui conçoit les hommes comme ils sont, et non comme ce qu'ils devraient être. Je pense d'ailleurs à Max Weber, ici à son petit livre « Le savant et le politique ». Et en ce qui concerne directement notre mythe, il est bien que Créon va plutôt agir par conviction, par absolu. C'est ainsi qu'il condamne Antigone à être enterrée vivante. Une punition qui rappelle son crime, s'il est bien question d'un crime, puisqu'Antigone voulait enterrer justement son frère pour lui offrir les derniers hommages. Ce n'est pas un choix de cœur, mais c'est un choix de raison pour Créon. Il fait donc emmurer vivante Antigone dans un cachot sous des lattes d'acide. Sauf que ce qu'il n'avait pas prévu, c'est que son fils Aemon, qui est éperdument amoureux d'Antigone, va se précipiter pour la retrouver. Et il parvient à la retrouver de justesse. Son corps est encore chaud, mais il est trop tard. Antigone a mis fin à ses jours, elle s'est pendue. Aemon est si désemparé qu'il attrape son épée qui pendait à son fourreau. Il va se passer la lame dans ses entrailles, de sorte de ne pas vivre un jour de plus qu'Antigone, et de sorte de mourir à ses côtés. Dans ce sens, William Shakespeare n'a décidément rien inventé dans cette scène finale. Dans Roméo et Juliette, tout est là, l'émotion comprise. On se retrouve dans un instant, après une petite pause musicale, et nous reviendrons sur cette scène finale et l'effet domino qui va s'en suivre.
Μαζεύω των ονείρων μου τη φύλλα στη πόχαρτα κουρέλια σημεούλες και πορφυρές κοιλίδες σαν αυγούλες αμύθιτες σε δρόμους που δεν πήραν. Ίσως εσύ τα ονομάζεις πείρα, όσα πενθούν τις λέξεις κι αληθεύουν, ζητούν τον κόσμο πάλι κυμερεύουν. Τις ώρες που δοξάζονται τα μοίρα, τα μοίρα. Και τα φοβάσαι, κρύβεσαι, ζηλεύεις. Σκοτάδια σου μιλούν και περισσεύεις. Ολόφωτη μια μυγδαλιά στο χιόνι. Ολόφωτη μια μυγδαλιά στο χιόνι. Αυγερινός λοιπόν μ' ό,τι παλιώνει. Θα περιμένω εκεί που βασιλεύεις. Στον έρωτα που όλα τα εξισώνει.
Nous voici de retour donc, et j'aimerais faire un petit lien avec Jean Anouilh, qui nous apprend donc le dénouement de la bouche d'un messager dans sa pièce. Et les mots sont très lourds, forts de sens, et ils insistent sur le caractère encore juvénile d'Antigone, qui n'a pas complètement atteint l'âge de raison, mais qui pourtant peut réfléchir et décider par elle-même de ses valeurs. La pièce est assez belle et assez simple à comprendre, et ce passage en particulier est assez frappant. On voit, donc là je parle de Créon, on voit ses cheveux blancs dans l'ombre, au fond du trou. Il essaie de relever Aimon, il le supplie. Aimon ne l'entend pas, puis soudain il se dresse, les yeux noirs, et il n'a jamais tant ressemblé au petit garçon d'autrefois. Il regarde son père sans rien dire, une minute, et tout à coup, il lui crache au visage et tire son épée. Créon bondit hors de portée, alors Aimon le regarde avec ses yeux d'enfant, lourd de mépris. Et Créon ne peut pas éviter ce regard. Comme la lame. Aimon regarde ce vieil homme tremblant à l'autre bout de la caverne, et sans rien dire, il se plonge l'épée dans le ventre, et il s'étend contre Antigone, l'embrassant dans une immense flaque rouge. Ici, le côté tragique est vraiment palpable. On comprend cette fragilité de Créon qui est ébranlé par les décisions qu'il est obligé de prendre, et également le côté tragique de la mort des amants. Finalement, Créon perdra tout cette journée-là, puisque sa femme, apprenant la mort de leur fils, se plantera ses aiguilles à tricoter dans sa gorge et va mourir en se vidant de son sang. Ce que Créon apprend après avoir vu périr son fils, presque dans ses bras. Il demeure seul, le poids de la décision, le poids des responsabilités l'ayant brisé pour le restant de ses jours. Tant plus que, ce qu'il ne faut pas oublier ici, c'est la force avec laquelle on comprend que le plus dur, c'est d'être celui qui reste. De la tragédie de Sophocle, nous retiendrons que le conflit entre le souverain de Thèbes et la fille d'Œdipe mène inévitablement à la destruction. Les deux protagonistes de la famille des Labdacides campent implacablement sur leur position. Hegel y voyait même l'incarnation du tragique, le défenseur de la raison d'État contre la protectrice de la dignité familiale, de causes ayant les mêmes droits, une certaine légitimité et s'affrontant avec force jusqu'à se détruire. Antigone n'est guidée par aucun intérêt privé. Elle se place dans un rapport immédiat avec l'absolu. Elle a la volonté d'être d'une certaine façon sous la loi directe des dieux. Et elle va revendiquer la supériorité des lois divines, intérieures à la conscience, car transmises de génération en génération depuis la nuit des temps. Et elle va s'opposer aux lois humaines qui lui sont extérieures. Chaque loi a ses fondements, mais les lois divines, Antigone les considère comme plus absolues. Sachant que parfois, les lois humaines sont illégitimes. Si cela vous intéresse, vous pourrez aller lire la pièce de Sophocle, mais c'est surtout celle de Jean Anouilh qui serait susceptible de vous intéresser. En effet, le mythe prend place dans une période plus proche de la nôtre, avec un langage peut-être plus compréhensible par nous. Et aussi, lorsqu'il écrit cette pièce, c'est pendant la Seconde Guerre mondiale, entre 1939 et 1945. Précisément, il me semble qu'il l'a réalisé en 1942, alors que la résistance se met en place progressivement en France. Et dans la figure des gardes, vous verrez, et même celle de Créon, que nous pouvons retrouver subrepticement les traits de ceux qui gouvernent alors la France et sont engagés dans le processus de collaboration. Et Antigone, elle, apparaît comme le condensé du devoir moral qui appartient à tous les résistants qui doivent lutter contre l'oppression pour répondre à des idéaux qui leur semblent plus justes et plus légitimes. Jean Anouilh annonçait même, je ne sais plus où, mais en tout cas il l'a dit, quand l'Antigone de Sophocle, il l'a lu et relu, et qu'il la connaissait par cœur depuis toujours, et que finalement ça a été un choc soudain pour lui pendant la guerre, le jour où il a vu des petites affiches rouges dans la rue. Il a donc réécrite à sa façon, avec la résonance de la tragédie qu'ils étaient en train de vivre. Peut-être serait-il judicieux de nous reporter aux pièces des anciens, quand on ne sait plus comment agir, et ainsi peut-être éviter de nouvelles Antigones ou de nouveaux Créons. Voilà, il est déjà l'heure de nous quitter. J'espère que ce mythe vous aura plu. Je vous souhaite une très belle continuation et je vous dis à la prochaine sur Radio Grand Ciel. Merci de votre attention et à bientôt.
Υπήρξε ψάρι.